Les Cascodeurs Podcast, épisode 239. Interview sur Rust avec Sylvain Wallez et Geoffrey Coupry. Enregistré le 2 octobre 2020.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cascodeurs, un épisode interview où on va parler de Rust. Alors, pour cette interview, j'ai fait appel à un ami. J'ai demandé l'aide de François. Salut François.
Et bonjour à tous.
Et donc, nos invités aujourd'hui sont Sylvain et Geoffroy. Salut messieurs.
Bonjour, bonjour.
Bien le bonjour.
Bon, alors je vais vous laisser vous présenter. Alors peut-être François, si tu veux commencer rapidement et laisser nos invités ensuite se présenter.
Je ne vais pas voler la vedette. Donc, bonjour à tous, je m'appelle François Techenet, je suis développeur chez Elastic. Et du coup, ça fait quelques temps que je m'amuse beaucoup avec Rust, et le soir à l'Outed notamment. Et voilà, je suis très heureux d'interviewer ces deux personnes. Et je leur laisse la parole.
Alors moi c'est Sylvain, donc je travaille aussi chez Elastic, mais depuis plus longtemps que François, d'ailleurs c'est un peu moi qui l'ai tiré chez Elastic, et du Rust, alors moi je fais du Java depuis des temps immémoriaux, et Rust je suis tombé dedans à la suite d'un long article que j'ai écrit sur Go, qui est sur mon blog, où je trouvais des tas de trucs qui n'allaient pas dans Go, et je me suis dit mais comment ils font chez Rust, ça ressemble à quoi ce langage, et je suis allé voir, et puis là je suis tombé amoureux, donc c'est comme ça que je suis tombé dedans.
Et bonjour, donc moi c'est Geoffroy Coupry, je suis développeur chez Clever Cloud, où je m'occupe principalement d'outils d'infra que je développe en Rust. Personnellement, je suis un développeur Rust des premiers jours, parce que quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, ça y est, c'est le langage que j'ai attendu toute ma vie, parce qu'avant je faisais du C.
Ok, bon, alors si vous deviez décrire Rust en deux phrases, ce serait quoi ?
Alors moi j'ai deux phrases qui me plaisent bien, moi. Il y en a une, c'est « si ça compile, ça marche ». Sauf erreur de logique. Et l'autre, c'est un langage qui offre des performances de bas niveau avec une expressivité de très haut niveau. Moi, c'est les deux choses principales pour moi dans Rust.
C'est vendeur. Hein. Ouais. Je te confirme, ça donne envie. Geoffroy, tu valides ou tu...
Personnellement, c'est... il y a un slogan qui a été sorti par la communauté Rust il y a quelques temps, c'était Fearless Concurrency. Et c'est le côté fearless. Genre, on peut développer des outils bas niveau facilement, sans avoir peur que ça pète en prod. Et ça, ça a été tellement libérateur. Et je pense que pour moi, c'est le truc le plus important. Et après, les gens qui font du Rust, ils sont sympas. Pour moi, ça a été une communauté hyper accueillante et j'ai adoré ça.
Et ce que tu dis, Geoffroy, sur l'aspect Fearless Concurrency, pour moi, c'est dans si ça compile, ça marche, en fait. C'est-à-dire que le compilateur, on en parlera, il y a tellement, vérifie tellement de choses que si ça compile, s'il est content, le compilateur, on est tranquille, quoi.
Exactement, ouais.
Donc, je pense qu'on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi pour vous les fonctionnalités clés du langage ?
Pour moi, effectivement, il y a ce côté du compilateur qui vérifie, mais en fait, le compilateur a introduit des idées qui traînaient dans la conception des langages sur la gestion de la mémoire. En fait, le compilateur sait à tout moment qui possède quel morceau de données, qui peut lire ou écrire sur quel morceau de données. Ça arrange pour qu'on n'ait pas plusieurs bouts de code qui écrivent au même endroit, au même moment. Et en fait, c'est quelque chose qui peut apparaître comme une contrainte, mais comme on a cette contrainte de base et qu'on peut se reposer dessus, tout d'un coup, il y a tout un tas de bouts de code qui sont beaucoup plus simples à écrire, parce qu'on ne se tenait pas à se poser des questions 50 fois sur « mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va modifier ce bout de code pendant que je fais quelque chose, etc. » Donc ça, c'est vraiment la clé de base du langage.
Ouais, moi je suis d'accord avec ça, il y a le côté être dans un environnement ultra secure du point de vue de la tranquillité d'esprit que le langage nous offre. Moi, un truc qui m'a choqué presque quand j'ai commencé à faire du Rust, c'est qu'on pouvait avoir des variables mutables. Alors, j'ai fait pas mal de Scala ou d'environnements un peu plus fonctionnels où on dit tout ce qui est mutable, c'est le mal absolu. Et là, on se retrouve dans un environnement où, comme c'est le compilateur qui vérifie que la mutabilité se fait de manière raisonnable et sûre, en gros, on peut utiliser la mutabilité sans souci, parce que on sait que si le compilateur nous laisse utiliser des variables mutables, c'est qu'on a le droit de le faire sans que ça pose de problème de concurrence ou de ou d'objets qui changent comme ça dans le dos d'autres bouts de code qui peuvent s'appuyer dessus. Et pour moi, ça a été une révélation et c'est extrêmement libérateur. Au début, je me sentais assez sale quand j'écrivais mute. Et puis après, je me dis, mais c'est trop bien, quoi.
En fait, tu récupères la souplesse de manipuler des objets mutables, mais sans avoir à te flipper parce que tu sais pas si à un moment ils vont pas être mutés sans que tu le saches, sans que tu t'en rendes compte par une note appel ou.
Exactement. Et alors, un truc aussi dans la gestion de la concurrence, moi, qui a été aussi révélateur pour moi, c'est la notion d'ownership. C'est-à-dire qu'en gros, un objet, à un moment, il est propriété d'un morceau de code ou d'une structure de données. Et alors, quand on fait de la concurrence, par exemple, le coup classique, c'est de mettre des mutex pour protéger l'accès concurrent. En Rust, le mutex est propriétaire de la donnée qu'il protège. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas accéder à cette donnée sans passer à travers la vérification du mutex. Contrairement à du code en Java ou en Go, où on va avoir un lock à côté, et il faut penser à prendre le lock avant d'accéder à la donnée partagée. Là, en Rust, il est impossible d'accéder à cette donnée partagée si on n'est pas passé à travers le mutex qui est propriétaire. Donc ça veut dire que les problèmes de concurrence, en fait, ils n'existent plus, par construction du langage. Alors on a toujours potentiellement des problèmes de deadlock, mais là, qui sont plus du niveau de la logique d'interaction entre les différents processus concurrents, mais les notions de data race quasiment n'existent plus, en fait, en Rust.
En fait, ça permet de localiser justement la mutabilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bout d'une structure qui va être modifiée juste à un endroit du code, et le compilateur va garantir que ça ne peut pas être modifié ailleurs. Et en fait, ça, niveau organisation du code, ça change tout. Et niveau de ce que peut faire le compilateur, ça change encore plus de choses. Il y a un truc qui est assez classique quand on met un peu les mains dans la mémoire en Rust, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte que au démarrage du soft, on va peut-être lire un fichier de config, créer une grosse structure config, et on va la passer comme référence un petit peu partout dans le code. Et on va se rendre compte qu'elle va durer toute la vie du programme, qu'elle sera utilisée partout, mais comme elle ne sera utilisée que par une référence immutable, que personne ne la modifie, en fait, on n'aura jamais à la copier où que ce soit. Et ça, c'est un pattern qu'on voit très très régulièrement, voire même des bouts de mémoire qui sont utilisés partout, et en fait qui sont juste quelque part sur la stack un peu plus haut, il n'y a jamais eu une allocation franche sur la heap, comme on peut voir. C'est le compilateur peut vraiment se marrer dans la manière d'organiser la mémoire. Et c'est des choses qui arrivent parce qu'on a ces contraintes qui sont là de base.
Alors, on peut dire que on va dire que le borrow checker, c'est vraiment la clé de voûte du langage en termes de fonctionnalité. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, on est sur des cascodeurs, donc un peu peut-être dans des Java initialement, donc on va dire que la mémoire peut être un souci, mais n'est pas non plus, on va dire, la préoccupation centrale de tous les développeurs. Est-ce que vous aurez d'autres fonctionnalités, on va dire pas clés, mais au moins des fonctionnalités d'expressivité qu'il y a dans le langage en Rust, autre que le borrow checker qui est lui la clé de voûte du langage.
Ouais, alors par rapport à du Java, on va se retrouver avec un système de type qui est extrêmement riche, bien plus riche que celui qu'on a en Java, qui est plus proche de ce qu'on va trouver en Kotlin ou en Scala. Mais alors pour avoir fait beaucoup de Scala, je sais que dans Scala on peut tomber très facilement dans une espèce de bouillie fonctionnelle qui peut rapidement devenir illisible. Là, on est dans un environnement, on va dire, qui ressemble à du C ou du Java dans la structure du code qu'on va écrire, mais avec un système de type qui est extrêmement expressif. Donc, on arrive à faire des choses qui sont très très expressives, avec très peu de lignes de code, et surtout, là, encore une fois, le compilateur qui va vérifier tous ces types derrière.
Est-ce qu'il y a des structures auxquelles tu penses en particulier
Alors. Oui, donc il y a en termes de les choses que moi j'aime beaucoup, c'est les énumérés. Alors quand dans d'autres langages on va appeler les tags de unions, donc en gros c'est les types unions qu'on va utiliser beaucoup en Rust. Alors aussi pour une autre raison, c'est qu'en Rust il y a pas d'héritage. Donc on est sur il y a pas de polymorphisme au sens objet traditionnel du terme. Donc on va beaucoup plus souvent utiliser ces unions, mais ça permet ensuite de faire du pattern matching pour vérifier, pour déstructurer les données selon leur type effectif et puis avoir différentes branches de code. Ça c'est un truc qui est vachement intéressant. On a aussi un système de traits. Alors les traits, on pourrait l'assimiler un peu à des interfaces en Java, mais c'est pas tout à fait ça. Et c'est ce qui nous apporte en Rust la possibilité de faire des combinaisons d'objets qui malgré tout restent extrêmement efficaces parce que on a des notions d'inlining de code dans des paramètres génériques qui font qu'on évite comme ça toutes les problématiques de d'allocation d'objets qu'on retrouve en Java parce qu'en fait l'association avec des objets qui sont alloués sur le heap.
Et à noter, du coup, il y a des generics, ils sont extrêmement employés, extrêmement utiles, parce que on peut avoir des structures qui sont génériques sur un type, mais ça peut être un type qui implémente tel ou tel trait. Et en fait, il y a énormément d'expressivité là-dessus, et on peut faire des interfaces très 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 flexibles sans jamais spécifier le type derrière. Il y a plein d'outillages qui a été fait autour de ça. Et pour moi, c'est une fonctionnalité qui n'est pas dans le langage même, mais pour moi qui est hyper importante autour de Rust, c'est justement tout l'outillage. Il y a eu un focus énorme sur l'utilisabilité et l'outillage du langage, à tel point que quand on commence en fait à travailler sur ce langage-là, on va écrire un bout de code, puis on va essayer d'arriver au bout, on va compiler, et puis là le compilateur va dire « ah non, ça marche pas », et puis on va être frustré, parce que le compilateur, toutes les 30 secondes, dit « il y a un truc qui va pas ». Quand on a fait du Rust depuis un petit peu plus longtemps, on écrit un bout de code, genre sans se poser de questions, sans essayer d'anticiper ce que le compilateur va dire, on écrit juste « voilà, c'est à ça que ça doit ressembler », puis on lance la compile, et puis on attend que le compilateur vienne dire « alors là, il y a une erreur parce que là, il y a ça, là, il y a une erreur parce que ça, là, il faudrait remplacer par ça ». Et en fait, les messages d'erreur sont très, très, très explicites, très faciles à comprendre, ce qui permet de quasiment corriger automatiquement les erreurs qu'on trouve. Et en fait, le développement est guidé par le compilateur. Au lieu d'avoir un adversaire qui vient vérifier le code qu'on a fait, c'est j'écris ce code-là, puis tu vas me dire comment je dois vraiment l'écrire, en fait. Et ça, c'est un truc qui est tellement puissant pour aller vite. C'est quelque chose que j'ai trouvé génial dans l'usage du langage.
Ouais, ça c'est très vrai ça. Et moi j'ai vu des gens qui démarrent en Rust et qui en gros rentrent au début dans un combat contre le compilateur. C'est souvent on en reparlera tout à l'heure sur l'apprentissage, mais au début souvent on va se bagarrer contre le compilateur. Mais au cours du temps, quand on commence à avoir le modèle mental qui rentre, on se rend compte que le compilateur, comme dit Geoffroy, est vraiment un assistant. Et surtout ils ont bossé d'une manière extraordinaire sur les messages d'erreur du compilateur, qui fait que souvent en fait le compilateur est capable de nous dire comment on doit corriger le code. Donc on a quasiment qu'à copier-coller ce que nous dit le compilateur. Alors, il faut une validation humaine, bien sûr, hein, il va pas le faire le remplacement tout seul, mais très souvent, il nous propose la solution. Et ça, c'est génial. Quoi, ça, c'est...
Et du coup, j'imagine, ça t'aide dans ta courbe d'apprentissage, finalement, puisqu'il est
suffisamment explicite. Oui, absolument, parce qu'en plus, tous ces messages d'erreur, en plus de te fournir une explication, ils contiennent des pointeurs sur la doc. Où là, tu cliques dessus, tu tombes sur la doc en ligne avec des exemples, des explications détaillées, etc. Donc, c'est vraiment un apprentissage assisté par le compilateur.
Ah, c'est super bien fait, ça.
Ah, j'ai les souvenirs que quand il y avait la vague de présentation sur Elm, enfin, le langage Elm, c'était un des grands points qui était montré en avant. Effectivement, Rust, je peux confirmer ce qu'il dit là-dessus, qu'il y a le compilateur a vraiment des messages extrêmement explicites, et c'est très agréable de travailler avec un compilateur, même si on se bat avec, a vraiment des erreurs très précises et compréhensibles humainement parlant, quoi.
Il y a eu définitivement de l'inspiration là-dessus, mais je me souviens plus exactement si c'est Elm qui s'est inspiré de Rust ou plutôt l'inverse, en fait.
Et justement, c'était notre prochaine question. C'était quoi les inspirations du langage, en fait?
Alors, les inspirations, je pense qu'il y a forcément du C++, mais on va dire les bons aspects du C++, notamment ce qui s'appelle le RAII, donc Resource Acquisition Initialization, donc c'est de là dérive toutes les notions d'ownership. Après, je pense qu'on trouve pas mal d'inspiration venant aussi de OCaml et Haskell pour tout ce qui est la définition du système de type avec les traits et tout ça. Et je crois qu'il y a aussi pas mal de gens à l'initiative de Rust qui viennent du monde Ruby. Alors, je sais pas. Comme je connais pas très bien Ruby, je sais pas si cette inspiration est visible. Geoffroy, je sais pas.
Si. Alors, pas forcément dans les gens qui ont contribué énormément au langage lui-même, au cœur du langage, mais oui, il y a eu une grosse migration de rubyistes au tout début, notamment sous l'impulsion de Steve Klabnik, qui avait écrit le petit bouquin Rust for Rubyists. C'est d'ailleurs comme ça moi que je m'y étais mis, en fait, parce que je faisais du Ruby à l'époque. Il a montré ce truc-là, je me suis dit c'est trop cool. Faut vraiment que j'en fasse. Et les rubyistes ont eu un impact énorme sur l'API, parce que il y avait un focus sur l'utilisabilité dans la lib standard, dans toutes les API autour. Et c'est là qu'il y a eu un travail monstrueux pour avoir, le but était d'avoir des API qui sont faciles à utiliser, faciles à comprendre et pour lesquelles on va pas faire d'erreurs grossières.
Ah, donc ça viendrait plutôt sur les API, par exemple autour des itérateurs et tout ça, donc l'inspiration Ruby, c'est ça que tu dis, hein?
Il y a ça, et les gens qui ont bossé sur Bundler, en fait, ont bossé après sur Cargo, le gestionnaire de paquets de Rust. D'accord. Et ça se voit clairement qu'il y a eu de l'expérience dans la création de cargo.
Ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que Ruby est un langage hyper dynamique, et ces rubyistes-là sont arrivés sur le langage qui est peut-être le plus typé des langages, alors mainstream ou quasiment mainstream, on va dire.
Ça tombe bien que vous parliez justement qu'il y a une vague de rubyistes, parce que notre prochaine question justement, c'est actuellement, c'est qui les utilisateurs types de Rust?
Bah là, Geoffroy va répondre, hein, Clever Cloud.
Avec Clever Cloud, j'avais commencé à en faire, et puis j'étais seul dans mon coin, et puis tout d'un coup, il y en avait qui arrivaient en prod, et il y a des gens qui s'y sont mis, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais non, en fait, ce que je vois, au début du Rust, on pensait que les gens qui font du C, du C++ vont migrer à Rust, parce qu'ils vont voir l'intérêt du langage, et dans la pratique, ça s'est pas vraiment passé. Parce que bah, c'était à peu près au même niveau, c'était un langage à apprendre en plus, et c'était des contraintes, les contraintes de Rust sur la mémoire notamment, étaient difficiles à appréhender pour les développeurs C++, qui étaient habitués à gérer ça eux-mêmes. En fait, c'est comme si la barre à passer était plus dure si on a déjà de l'expérience à ce niveau-là du développement.
C'est vachement marrant ce que tu dis, parce que moi j'ai vu un article de Rob Pike à propos de Go, où il explique que Go chez Google initialement était destiné à remplacer C++, mais en fait le public qui a adopté Go chez Google n'est pas du tout celui-là, c'est plutôt les développeurs Python et Java qui l'ont adopté.
Ouais, parce c'est pareil.
Parce que justement les développeurs C++ étaient habitués à leur complexité qu'ils maîtrisaient en fait, et ils savaient où un peu se trouvaient les choses trappes du langage, et ont pas voulu abandonner ça.
C'est exactement ça. Et du coup, ce qu'on a vu pour Rust, c'est des rubyistes, c'est du JavaScript aussi. C'est des gens, en fait, qui faisaient déjà du dev backend et qui voulaient aller un petit peu plus bas dans la stack, qui voulaient peut-être obtenir une meilleure paire, avoir un langage où le typage apporte de la stabilité. Et en fait, aller plus bas dans la stack, il y avait Go et Rust. Donc, ça a beaucoup migré vers ces deux langages-là. Et il y a eu énormément d'outils d'infra, notamment, qui ont été développés dans ces langages. Nous, c'est ce qu'on fait, notamment chez Clever. En fait, on a commencé à remplacer un paquet de petits outils par un bout de Rust dans un coin. Et on sait que, une fois que c'est codé, que c'est mis en prod, quasiment, ça va tourner indéfiniment. Et c'est cette assurance-là qui fait que, bah, on aura envie de faire ça plus en Rust que, par exemple, en Node. Donc, il y a beaucoup de gens qui font du JavaScript. Il y a pas mal de gens dans le jeu vidéo qui s'y mettent. Encore une fois, c'est pas forcément ceux qui faisaient du gros jeu vidéo en C++, mais il y a des gens qui faisaient du jeu dans plein de langages, formats différents, qui se sont dit, tiens, mais en fait, je peux faire des trucs assez bas niveau maintenant avec ça. Et ça, c'est intéressant aussi.
Il y a plein de petits studios de jeux indépendants qui, effectivement, se mettent au Rust, et on voit aussi émerger plein de moteurs de jeux écrits en Rust pour faire des petits jeux simples, en fait, des petits jeux de plateforme, des choses comme ça. Il y a aussi, donc là Jean-François en a parlé, tout ce qui est petits services et outils, etc. Les gros usages de Rust, je pense, arrivent par les services réseau. Donc on voit, il y a Sozu chez Clever Cloud, Linkerd qui est un service mesh de la CNCF. Ils ont écrit une version 2 intégralement en Rust. Cloudflare, je sais, l'utilise beaucoup. Alors c'est marrant parce que Cloudflare, ils ont commencé en Go, ils ont fait énormément de Go, ils ont même pas mal amélioré les perfs, notamment autour de tout ce qui est crypto dans Go. Et puis à un moment, ils sont tombés dans Rust et maintenant, bah, ils font tous les nouveaux trucs qui sortent de chez Cloudflare sont en Rust. Il y a aussi un domaine où on voit plein de Rust apparaître, c'est les outils command line. Alors, je sais pas vous, mais moi sur mon Mac, RG, ripgrep a remplacé grep. C'est écrit en Rust.
Ça a changé ma vie, cet outil.
Ah oui, mais c'est incroyable. La vitesse, la performance de ce truc-là est absolument incroyable. Donc, il y a de plus en plus d'outils command line qui émergent, qui sont écrits en Rust. Et puis après, on voit aussi dans le web beaucoup de trucs, en calcul lourd, qui sont écrits en Rust et compilés vers du WebAssembly. Alors, pourquoi WebAssembly? C'est vachement intéressant parce que WebAssembly a une contrainte aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de garbage collector. Et Rust n'ayant pas de garbage collector, c'est une cible parfaite pour WebAssembly, parce que si on veut, alors Go par exemple se compile en WebAssembly, mais les exécutables résultants sont assez gros parce qu'ils embarquent un gros runtime avec un garbage collector, etc. Donc c'est assez lourd. Alors qu'en Rust, comme c'est directement, on va dire, bare metal sur le WebAssembly, c'est beaucoup plus léger tout en étant extrêmement performant.
C'est effectivement ce qui se passe pour l'instant pour faire du WebAssembly. Les meilleurs targets, c'est C, C++, Rust. Et apparemment, Zig fait pas mal de taf. Et les autres langages galèrent un petit peu parce qu'il faut embarquer un runtime énorme. Et c'est pas hyper simple. Moi, je fais pas mal de tests parce qu'on est en train, chez Clever Cloud, de développer un function as a service en WebAssembly. Et selon les langages, c'est pas hyper stable. Kotlin native était intéressant à un moment, mais c'est assez lourd. Il y a AssemblyScript qui marche plutôt bien, mais c'est pas du TypeScript même. Il y a toujours en fait plein de compromis à faire. Et Rust est arrivé en fait à rouler complètement sur le problème, parce que on peut compiler du Rust vers du WebAssembly. Ok, il y a besoin d'importer 2-3 fonctions, c'est pas compliqué. Puis après en fait, des gens ont commencé à développer plein d'outillages pour générer des bindings, pour interagir avec le JS, etc. Et puis maintenant, on peut avoir un bout de Rust qu'on package directement dans une lib pour NPM, qui sera uploadé, qu'on peut utiliser dans du Webpack derrière, etc. Enfin, il y a un travail sur l'outillage qui a été fait pour utiliser Wasm qui est hyper intéressant.
Et il y a une dernière cible aussi dont on n'a pas parlé, qui est l'embarqué. On voit de plus en plus de gens qui utilisent Rust pour du logiciel embarqué. Alors pourquoi ça? Parce que encore une fois, il n'y a pas de garbage collector. Il y a un système de type qui est extrêmement strict et donc qui fait que on va éviter tout un tas d'erreurs qui classiquement peuvent arriver en C. Et il y a une grosse mouvance en ce moment justement sur développement de l'outillage embarqué pour avoir des expériences de développement en embarqué qui sont proches de celles qu'on a sur du développement desktop ou serveur classique. Et alors là, moi je trouve que c'est un truc qui est vachement intéressant en Rust, parce que moi je l'utilise aussi bien pour faire des API web qui vont tourner sur des serveurs que pour bricoler des petits machins sur mes microcontrôleurs en Cortex ARM. Donc là, c'est vraiment du bare metal, et puis on va faire clignoter des LED, etc. Donc c'est un langage qui couvre tout ce spectre. C'est vachement intéressant.
L'embarqué a mis un peu de temps à venir, parce qu'en fait, il fallait avoir le support d'un certain nombre de processeurs et voir comment générer l'API de la plateforme sur laquelle on va être. Et à une époque, ça consistait à recompiler son propre compilateur Rust qui target exactement la plateforme qu'on veut, et c'était un peu compliqué. Là, maintenant, il y a effectivement beaucoup de taf là-dessus. Et il y a eu des projets hyper intéressants comme Real-Time for Nubuses, où en fait, il va y avoir un système multitâche sur l'embarqué, qui va vérifier à la compilation qu'il n'y a pas de race, qu'il n'y a pas de deadlock, qu'il n'y a pas de choses comme ça. Donc, il y a eu d'innovations monstrueuses là-dedans. Là, actuellement, c'est Ferro System, c'est une boîte de Presta en Rust qui est allemande, qui a fait du taf pour notamment avoir un debugger qui marche bien en remote pour l'embarquer. Donc là, effectivement, on sent que tout d'un coup, il y a un coup de collier qui a été mis sur l'embarqué, et on va avoir de l'outillage vraiment intéressant qui arrive.
Donc un langage qui est assez flexible, en fait, qui permet vraiment de faire pas mal de trucs.
Ouais, alors après, il faut pas se leurrer, hein. Rentrer dans Rust, ça demande un investissement. Enfin, on en parlera au niveau de l'apprentissage, hein. Il faut réfléchir un peu plus, mais quand on est rentré dedans, ça paye, quoi.
Ouais, du coup, c'est intéressant, parce que là, on voit qu'avec l'embarqué, il y a eu un engouement qui fait qu'on a plein de choses qui arrivent à un moment donné. Moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en fais, je suis aussi pas mal le langage, et c'est vrai que, au fur et à mesure, on a vu dans le temps des choses arriver dans Rust. C'est-à-dire que, bien sûr, je vais vous demander de parler d'async await en premier. Mais on va faire un petit focus. C'est un langage qui évolue vite et dans des directions, des fois totalement opposées. Et est-ce que vous pouvez en parler? Notamment, je crois que tu fais partie de certains groupes de travail. Donc, est-ce que vous pouvez parler de l'évolution du langage, de comment ça avance, etc., et comment ça évolue?
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que on a changé un peu de phase dans le développement du langage. C'est-à-dire qu'au début, on avait les early adopters qui étaient là et plein de nouvelles features qui doivent arriver. Et là, depuis 1 ou 2 ans, on va dire qu'il y a plus une communauté Rust, il y a des communautés Rust qui ont chacune leurs besoins qui sont un petit peu différents. Comme on dit, il y a les gens qui vont faire de l'embarqué, il y a les gens qui vont faire du web du web front avec WebAssembly, les gens qui vont faire des services backend, les gens qui vont faire de la command line, les gens qui font du jeu vidéo, et tous ces gens-là ont des besoins qui sont complètement différents. Et donc, il y a des working groups sur plein de sujets, qui avancent chacun, qui font leurs petites modifications sur le compilateur, et la difficulté, c'est effectivement d'avoir un tout qui est cohérent, et d'adresser les besoins des différentes communautés, où chacune va dire, mon sujet, c'est quand même le truc le plus important, faudrait peut-être qu'on s'y mette, quoi. Là, par exemple, tu parles d'async await, ça, c'est un sujet qui date de 2015, je crois. Enfin, ça a commencé à cette époque-là. C'était pour avoir de la programmation asynchrone. Et il y a eu un travail de fond énorme sur le compilateur pour ajouter des fonctionnalités, supporter, en fait, de pouvoir avoir des tâches qui s'exécutent de manière asynchrone, dépendant de l'IO, dépendant d'autres choses. Ça a commencé avec les futures. Et en fait, là, maintenant, en 2020, on arrive à un truc qui est à peu près utilisable. Et ça a mis du temps, quoi.
Une chose intéressante aussi dans l'évolution du langage, c'est qu'il y a, on fait très attention à la compatibilité ascendante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de feature gates, en fait, dans le code lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir utiliser la version nightly du langage, pour utiliser les toutes dernières évolutions du compilateur. Par contre, si on dit, je veux un environnement stable, tous ces trucs-là vont disparaître, même si potentiellement ils peuvent être présents dans le code du compilateur, parce qu'on a dit, je veux tourner sur la version stable, courante. Et même au-delà de ça, il y a un système assez original d'édition du langage, c'est-à-dire qu'il y a eu en 2018, donc la fameuse édition 2018 de Rust, où il y a eu quelques changements syntaxiques, alors relativement mineurs, mais qui faisaient que ça pouvait casser la compatibilité. Et donc quand on crée un projet, on dit mon projet il est dans l'édition 2015 ou dans l'édition 2018. Et donc en gros ça va activer le mode correspondant du compilateur avec du code qui potentiellement ne pourrait pas être compilé dans l'édition. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est local à une librairie. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement assembler des librairies qui sont dans différentes éditions du langage. Donc ça permet comme ça une évolution graduelle du langage sans casser la compatibilité. La compatibilité au niveau, assemblage des librairies pour constituer une application, mais en permettant malgré tout de casser d'une certaine manière la compatibilité du langage avec ce flag de l'édition qu'on utilise pour une compilation.
Alors les éditions, ça a été quand même un petit peu dans la douleur. Il y avait besoin de faire des breaking changes sur un certain nombre de choses, et c'est bien qu'il l'ait fait. Par contre, la migration sans douleur, c'est limité à une lib. En fait, c'était pas tellement vrai. Moi, je me souviens d'avoir une ou deux libs où pouvoir m'assurer pour qu'elle soit utilisable en Rust édition 2015 et en Rust édition 2018, ça a été un travail conséquent en fait. Mais c'était un travail qu'il fallait faire. Et je préfère moi voir un langage où les gens évolue, où il y a un travail pour migrer quand il y a besoin, et que ça se fasse vite, plutôt qu'on se retrouve à attendre pendant 10 ans une nouvelle version du langage, comme on a pu voir avec Python.
Et du coup, ça se passe comment au niveau justement des libs? Est-ce qu'elles ont suivi ces évolutions? Est-ce que c'est plutôt vous jouez avec cette possibilité d'utiliser des libs avec d'autres versions du langage, ou ça se passe comment?
Des libs que j'utilisais en 2015, je peux les utiliser encore maintenant en fait. Pour la plupart, il n'y aura pas eu de vrai changement d'API et ça va pouvoir marcher directement. Donc il y a ce côté en fait de rétrocompatibilité qui est, en tout cas dans la standard lib, qui est hyper intéressant. Après, quelle version de lib on utilise, ça va dépendre de l'arbre de dépendance qu'on a, et c'est là où Cargo, le gestionnaire paquet, va fournir de l'outillage pour pouvoir décider ça. Ça, c'est un gestionnaire paquet qui autorise d'avoir plusieurs versions différentes d'une même lib dans l'arbre de dépendance. Donc si une lib vient qui est embarquée par 2-3 dépendances différentes à différentes versions, c'est quelque chose qui va pouvoir marcher.
Ça, c'est un truc venant de Java où on a ces fameux class pass hell avec des conflits de versions, etc. J'ai trouvé ça magique. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop bien. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça ailleurs?
Ouais, donc finalement, Cargo, vous lui déclarez vos dépendances et lui va être capable d'aller, s'il a des dépendances qui pointent sur plusieurs versions d'une même librairie, il va être capable d'aller utiliser la bonne version pour chacune des dépendances en question. Il fait le job tout seul, on n'a rien à lui préciser.
En fait, on peut avoir en parallèle plusieurs versions majeures d'une lib dans le même arbre de dépendance. C'est comme ça que ça va marcher. Mais après, si il y a plusieurs dépendances qui embarquent la même lib par une même version majeure, tout le monde va pointer sur le même.
Je pense qu'on peut commencer à rentrer dans le dur. Donc on l'a dit tout à l'heure, il me semble qu'on l'a dit, il n'y a pas de garbage collection. Non. En Rust, et du coup, comment ça se passe sous le capot? Comment est-ce qu'il gère la mémoire alors?
On peut même dire carrément qu'il n'y a pas de VM en fait. Hein. Oui, Rust compile directement en natif. Et du coup, effectivement, vu qu'il n'y a pas de VM, pas de GC, et qu'on fait pourtant pas de gestion de mémoire, enfin, on va dire pas dans un grand pourcentage des cas, comment que ça marche?
Alors, ce qui se passe, c'est que comme le compilateur sait à tout moment qui possède quel morceau de données, qui a une référence dessus ou pas, eh bien, il va pouvoir regarder ce qu'on appelle le scope d'un bout de données, c'est-à-dire dans quelle fonction, dans quel sous-bloc de la fonction ça peut s'exécuter, ou à quelle autre structure ça appartient. Et à partir du moment où il n'y a plus aucune référence dessus et qu'on sort du scope qui possédait cette donnée, ben ça va être supprimé. En fait, le compilateur sait à tout moment quand supprimer la donnée. Il ne va pas garantir qu'il va la supprimer exactement à ce moment-là, mais il sait qu'on ne peut plus l'adresser à partir du moment où on dit qu'elle est dropped.
Et alors, un effet de bord super intéressant de cette approche-là, c'est que le coup classique qu'on a en Java où on oublie par exemple de fermer un fichier n'est simplement structurellement pas possible en Rust. Parce qu'à partir du moment où la variable qui pointe vers le fichier ouvert disparaît du scope, qu'elle n'est plus visible du code, le compilateur va insérer les instructions de fermeture. C'est-à-dire que le drop sur une variable de type file descriptor, par exemple, va fermer le fichier en dessous. Donc la notion de libération de ressources, elle suit en fait le scope de définition des variables. Et ça, c'est super intéressant parce que toutes ces notions de ressources leak qu'on peut avoir dans les langages avec des garbage collectors, en fait, simplement n'existaient pas.
À noter, il y avait en fait au tout début du langage une idée de mettre un garbage collector. Alors c'était dans une vieille version où à un moment où on mettait des préfixes au nom de variable, et si on mettait un arrobase devant un nom de variable, ça considérait que ça pouvait être garbage collecté. En fait, il y avait du refcounting derrière, et à un moment ils ont juste décidé de l'enlever parce que ça servait pas à grand chose de l'avoir de base. Par contre, dans la standard lib, il y a du refcounting qui existe, des structures qui permettent de l'utiliser. Donc si besoin, on peut toujours avoir cet outillage-là.
Voilà, c'est comme ça qu'on remplace le garbage collector finalement, c'est-à-dire que quand on a un objet qui doit être partagé entre plusieurs morceaux de code, on va l'allouer sur le heap et le décorer avec un compteur de référence. Alors il y a deux types de compteurs de référence, il y en a un qui est un simple compteur, on va dire non protégé d'un point de vue multithreading. Le compilateur va bien vérifier qu'on ne fait pas d'utilisation inter-thread de ces compteurs-là. Et puis, après, ça, c'est le RC, Reference Counter. Et après, on a le ARC, le Atomic Reference Counter, qui, lui, va permettre de partager une donnée entre plusieurs threads. Et là encore, les notions de scope font qu'à chaque fois qu'on a une variable qui on va dire, est à laquelle on affecte un Reference Counter, le counter va être incrémenté. Quand elle sort du scope, le compteur est décrémenté, quand on passe à zéro, la mémoire est libérée. Donc, j'avais vu un article de je sais plus qui disait que Rust, en fait, avait un garbage collector, mais un garbage collector statique. C'est-à-dire que c'est finalement le compilateur qui sait quand il doit libérer la mémoire. Donc, soit automatiquement quand c'est des variables non partagées, soit à travers le reference counting quand c'est partagé.
Là, c'est la partie qui m'intéresse, parce que finalement, moi, ce que j'en avais compris, etc., et mon utilisation, ce qui est super intéressant, et ce que je trouve vraiment ultra intéressant dans le langage, c'est le concept que, en gros, il n'y a pas de GC et il n'y a pas de check mémoire en runtime, parce qu'en fait, c'est des instructions qui sont insérées par la compilation, en fait. C'est de l'exécution, en fait, de la même manière, quoi. On mettrait un free dans du C. Exactement. En fait, ce free va être inséré par le compilateur au bon endroit en nous garantissant qu'il y a un GC mémoire. Alors après, peut-être que je me trompe, mais il me semble que
non, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, le free est inséré par le compilateur quand une variable, n'est plus visible quand on sort du scope où une variable est définie. C'est aussi simple que ça dans le principe, et l'effet de bord de ça, c'est justement cette notion de libération automatique de la mémoire. Et qui par effet de bord, donc comme je le disais tout à l'heure sur les fichiers, la libération d'un objet peut faire pas seulement de la libération de mémoire, mais aussi de la libération de ressources de la machine, comme fermer des files descriptors et choses comme ça.
Sachant que le compilateur peut être assez malin là-dessus. Par exemple, si on a une structure qui contient une référence vers une autre, il va, au moment où on drop cette structure-là, il va regarder, tiens, est-ce qu'il y a d'autres références encore vers telle autre structure? Sinon, et si l'autre peut être supprimée, il va la supprimer aussi. Il peut cascader comme ça les suppressions, et ça se fera automatiquement. C'est automatiquement géré à la compilation, du coup. Donc il y a des choses vraiment marrantes à faire. Et ce que je trouve d'intrigant, en fait, c'est que comme on avait cette gestion mémoire qui était quand même très brute, très efficace mais très brute, en fait, il y a eu un travail après sur les allocateurs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Donc, il y a la lib standard permet déjà de changer l'allocateur mémoire de base utilisé par Rust. Donc, par exemple, en ce moment, on a JEM allocateur qui est là de base, mais on peut changer pour utiliser l'allocateur système. Il y a un allocateur qui a été sorti pour du WebAssembly qui est très très léger, qui génère peu de code, qui s'appelle WeAllocator, je crois que ça s'appelle. Et il y a eu plein de tests qui ont été faits sur des pools de mémoire, sur des arena allocators, des bump allocators, des choses comme ça, pour tester en fait des choses. Et c'est-à-dire pour un langage qui a pas de garbage collection, il y a eu un nombre énorme de garbage collectors qui ont été écrits juste pour voir ce qu'on peut faire. Et qui sont utilisés notamment dans les jeux vidéo. Parce que avoir plein d'objets globaux qui peuvent être utilisés à droite à gauche, en fait, c'est quelque chose qui peut être utile. Et là, on a besoin d'outillage pour ça.
Ouais, ce qui est intéressant dans les jeux vidéo, c'est qu'ils ont travaillé, tu mentionnais les Arena Allocators, qui sont des allocateurs spécifiques assez rigolos, parce qu'en gros, c'est des allocateurs où on réserve une zone de mémoire. On va mettre des tas d'objets dedans, qui ont tous plus ou moins la même durée de vie. Et à un moment, on dit, ces objets-là, j'en ai plus besoin, et ram, on les dégage tous en même temps de la mémoire. Ce qui fait que on a comme ça aussi une sorte d'optimisation de l'allocation mémoire. Parce que malgré tout, faire un malloc et un free, ça a un coût. Hein. Et donc là, on le fait par gros paquet, finalement.
Et ce qui va être marrant avec un arena allocator, si c'est dans le jeu vidéo, on imagine, par exemple, le temps de calculer une frame dans le jeu. Tout ce qui va être local à cette frame, ces calculs-là, ça va aller dans l'arena allocator. Et tout ce qui dure plus longtemps va être sur l'allocateur normal. Et en fait, le compilateur va pouvoir garantir que la donnée longue durée ne va pas garder des références sur de la donnée qui est dans l'arena allocator et qui va être drop à la fin de la frame. Théoriquement, ça ne va pas compiler. Donc, même pour ça, en fait, le compilateur on va pouvoir se reposer dessus pour vérifier du code, même dans des garbage collectors et autres. C'est quelque chose que je trouve super intéressant aussi.
C'est un peu un espèce de super ownership que tu mets par-dessus les ownerships existants dans le code, ou c'est juste un...
Non, ce sera fait de base, c'est-à-dire que l'arena allocator va dire, arrivé à la fin de cette zone-là, moi je drop tel bout de mémoire, et tout ce qui a une référence vers ce qui est dans ce bout de mémoire va avoir ce qu'on appelle des lifetimes. Lifetime, c'est une espèce de tag pour dire ça vit en fait de telle date à telle date dans le code. Et le compilateur va regarder, mais en fait tel bout de données on le vire à ce moment-là. Après ce moment-là, je dois pas avoir une référence qui est gardée vers ce bout de mémoire. Et donc s'il voit que c'est un cas qui arrive, en fait ça va pas compiler.
Je pense que ça, c'est une phrase qu'on va retrouver très souvent en Rust, c'est si tu fais ça, ça va pas compiler. Donc c'est pour ça que quand on démarre, souvent on est frustré parce que ça compile pas, mais en fait on se rend compte que c'est pour des bonnes raisons, quoi.
Ouais, mais moi ça me fait un peu rêver, hein, je t'avoue. Me dire, je préfère me faire jeter à la compile que ça me pète à la tronche plus tard, tu vois.
Moi, j'ai commencé au début de ma carrière, je bossais dans le spatial ici à Toulouse là, et je faisais du logiciel embarqué en ADA. Donc l'ADA est aussi un langage qui est hyper strict, et finalement moi j'étais en gros quand ça compilait en ADA, on était sûr qu'on pouvait, j'allais pas dire on peut le déployer sur le satellite, mais quasi quoi. Et en Rust j'ai retrouvé cette sécurité, on va dire, c'est-à-dire que le compilateur il vérifie tellement de trucs, je me sens hyper confiant, c'est-à-dire que je sais que si ça compile, j'ai une tranquillité d'esprit qui est incroyable.
J'ai juste envie de pointer un truc. Alors du coup, on a parlé de que ça compile. Enfin, il n'y a pas de VM. C'est intégré avec justement des allocateurs mémoire, etc. qui peuvent être changés. Et alors tout ça, comment ça marche par rapport au target qu'on peut avoir, parce qu'on a parlé de WebAssembly. Bien évidemment, on peut targeter, on va dire, de l'embarquer. Mais comment ça marche en fait derrière? Et je pose spécifiquement avec WebAssembly, LLVM et tous les supports qui n'auraient pas de support actuellement à LLVM.
Non, je sais pas si Geoffroy, peut-être plutôt ta partie, ça sur les différents tiers, etc. Non, ça...
Là, c'est effectivement le compilateur Rust de base compile vers les targets que l'LVM supporte et a été assez moteur là-dessus d'ailleurs. Mais je sais qu'il existe un autre compilateur en développement, mais qui n'est pas forcément vocation à être utilisé pour de la prod, plus pour tester le compilateur normal. Mais ouais, effectivement, ce que Rust target, c'est ce que l'LVM peut target.
Avec différents niveaux de garantie, en fait, ils distinguent trois tiers. Donc il y a le tiers 1 qui est ce qu'ils disent guaranteed to work. Donc en gros c'est les cibles x86, 32 et 64 bits. Où là en gros tous les tests d'intégration sont passés en permanence et sur Linux, Windows et macOS. Après il y a le tiers 2.
On va retrouver... les tiers ça implique aussi le support de l'OS derrière, c'est-à-dire ouais, Windows, c'est Linux, Mac et après.
Le tiers 2 après qui est comme ils disent guaranteed to build, c'est-à-dire qu'ils passent pas forcément tous les tests mais ils produisent un binaire à chaque nouvelle release. On va trouver toutes les plateformes ARM, alors aussi bien sur des cibles Linux que sur des cibles embarquées, le WebAssembly et choses comme ça. Et puis après il y a le tiers 3 où il y a un certain niveau de support, c'est-à-dire qu'en gros l'équipe Rust y a prêté attention mais on teste pas forcément tout le temps, donc là c'est un petit peu bah, ça peut peut-être marcher, comme des fois ça peut ne pas marcher, et voilà, on va trouver des plateformes un peu plus ésotériques, et puis aussi, je crois que récemment ils ont ajouté le support de la plateforme AVR, donc les microcontrôleurs qu'on trouve sur les Arduino par exemple.
Ok, alors maintenant on va donc parler du sujet qui fâche ou pas. On va parler apprentissage. Donc on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, la courbe d'apprentissage elle est pas forcément petite. C'est quoi votre point de vue dessus? Est-ce que vous avez... Alors, on a déjà évoqué le conseil, tu disais, Sylvain, tout à l'heure, de pas essayer de se battre avec le compilo, mais finalement d'essayer d'apprendre de lui. Quels sont vos autres conseils pour commencer en Rust?
Alors, moi, mon conseil, alors un truc, moi, j'ai rencontré, donc moi, je suis un des co-créateurs du meet-up Rust à Toulouse, donc on a vu arriver pas mal de gens qui étaient intéressés, curieux, et qui nous demandaient comment on apprend. Moi, mon expérience personnelle, quand j'ai appris Rust, c'est que j'ai pris un bouquin, le bouquin Programming Rust de chez Aurélie. Alors, on peut aussi prendre le Rust Book, qui est la doc en ligne, qui est très bien aussi. Moi, je considère que Rust, il y a des concepts suffisamment différents et inhabituels, on va dire, que il faut prendre le temps de l'apprendre. C'est-à-dire que si on débarque direct en voulant faire son petit Hello World, machin, et puis commencer à coder, bille en tête, comme on le fait avec un langage classique, on va se casser les dents. On va se casser les dents, on va être frustré. Je connais des gens qui sont des excellents développeurs, super bons, etc., qui ont essayé de faire comme ça et qui ont laissé tomber. Et qui sont revenus 3 mois plus tard, après avoir lu un bouquin, et là, ça a marché. Donc après, chacun a une façon d'apprendre différente. Il y en a qui sont plus par la pratique, d'autres plus par la lecture. Il y a aussi beaucoup de matériel. Alors on trouve les références sur le site de Rust. Il y a aussi un Rust by Example qui va prendre à travers des exercices progressivement les différents concepts. Mais là encore, il faut apprendre ces concepts. Il faut prendre le temps de l'apprendre, sinon on se casse les dents.
Oui, la théorie est pas évitable, quoi qu'il arrive.
Alors, j'ai pas forcément de parler de théorie, mais plutôt de compréhension des concepts, en fait. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'une théorie informatique derrière, colossale, mais il faut bien comprendre ces notions d'ownership, de borrow checker, de lifetime, et choses comme ça. Encore une fois, c'est suffisamment original, en fait, pour que on puisse pas directement attaquer bille en tête, sans prendre le temps de vraiment comprendre ce que c'est.
Ouais, je vais passer de l'autre côté de la table pour aller avec Sylvain là-dessus. Effectivement, aussi, j'ai aidé à monter le Meetup Rust à Montpellier, et j'ai mis beaucoup de mes anciens collègues et amis qui étaient développeurs plus Scala, voire Haskell, à Rust. Et alors, clairement, c'est un langage, eux, ils n'ont pas appris, ils ont appris par la pratique, et clairement, en gros, c'est un apprentissage par palier, quoi. Ils arrivent, il y a un concept qu'ils n'ont pas, il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il y a un concept associé, que ce soit le borrowing, le lifetime, l'ownership, enfin, un des concepts qui leur posait problème. Et en fait, ils vont taper dans le mur jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et en fait, une fois qu'ils ont compris, bah, ça coule tout seul jusqu'au prochain problème.
Il y a aussi une autre difficulté dans l'apprentissage de Rust pour des développeurs qui viennent des mondes, soit langage dynamique, alors type JavaScript, Python, etc., ou aussi à garbage collector type Java, c'est que la gestion de la mémoire est plus apparente. C'est-à-dire que on va voir apparaître la notion de pointeur, de référence, en fait, hein, comme en Go, finalement. En Go, les références apparaissent aussi. On va voir aussi certains moments où il faut introduire la notion de box. Alors, box, c'est quoi, finalement? C'est l'équivalent du new en Java, où on fait une allocation sur le heap, mais en Java, on fait du new partout, puisqu'il n'y a que le heap. Alors qu'en Rust, il y a des moments où on va devoir décider que ce truc-là, on le met sur le heap, parce qu'il a besoin d'être partagé entre plusieurs morceaux du code. Donc il y a une partie, en fait, réflexion sur la gestion de mémoire qui est plus apparente, parce que bon, il faut pas se leurrer, ça a été conçu comme un langage système bas niveau à l'origine, donc ces choses-là sont apparentes. Ceci dit, c'est suffisamment bien fait en Rust avec le compilateur qui vérifie tous les types pour que en gros on n'ait pas des segmentation violations partout parce que on a mal géré ses pointeurs comme on peut le faire en C par exemple.
Moi, sur l'apprentissage, alors, bon, il faut prendre mon avis avec des pincettes, parce que comme je suis un early adopteur de Rust, j'ai commencé Rust à une époque où le langage était différent et j'ai intégré les nouvelles features au fur et à mesure, donc c'était pas de la même manière que les gens qui s'y mettent maintenant, à qui je conseillerais notamment les livres, parce que les livres sont très, très bons. Par contre, un point qui pour moi est hyper important, en fait, c'est plus important de se faire une intuition du langage qu'une compréhension. C'est-à-dire qu'effectivement, le borrow checker et tout ça, c'est des concepts qui sont complexes, ça va pas faire clic tout de suite. On va pas tout de suite comprendre profondément le problème. Par contre, en s'appuyant sur le compilateur, en testant, en faisant des bouts de code, au fur et à mesure, on a une intuition qui se crée de, ah, dans ce cas-là, je sais que ça va toujours bien se passer. Dans ce cas-là, peut-être que ça se passe pas bien, je vais voir ce que le compilateur dit. Et ce côté, on peut décaler un peu le moment où on va vraiment apprendre pourquoi ça fait ça, comment ça fait ça, et vraiment la compréhension profonde du langage, et plus se concentrer sur, bah, j'ai envie d'avoir un petit bout de code qui marche, je vais laisser le compilateur me dire ce qu'il va faire. Et il y a une manière d'écrire qui va être différente. Par exemple, ce que je conseille à la plupart des gens au début, au lieu de s'embêter à mettre des références partout pour essayer de consommer le moins de mémoire possible, ce qui est un jeu qui est très très drôle en Rust, on peut vraiment avoir un langage qui consomme très très peu de mémoire. En fait, on va essayer de cloner tout, et puis on va pas se poser de questions, hein, et puis on va copier les données, et c'est pas grave, parce que de toute façon, ça coûtera très peu en perf quand même. Et après, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Après, on essaie d'introduire des références pour voir ce qui se passe, et on essaie de voir ce que le compilateur va dire. Et c'est se faire cette intuition qui pour moi est important. Sur l'apprentissage par la pratique, je pense que le mieux, c'est de commencer par les outils en ligne de commande, en fait. Tout ce qui est web et async await, c'est déjà, il peut y avoir un peu une impression de devoir prendre le train en marche. Là, le async await, c'est à vitesse supérieure. Donc, commencer par un outil en ligne de commande, ça va être très interactif, facile à suivre, facile à écrire. Et plus facile à tester que, par exemple, tout ce qui est WebAssembly ou async await.
Ouais, c'est très vrai ce que tu dis sur la gestion de la mémoire. Je sais que c'est François qui avait fait sa présentation au DFS Toulouse là sur une appli web avec Rust. Et je me souviens, François, que tu disais que au début, faut pas s'emmerder, faut pas hésiter à cloner, à copier, etc. Parce que finalement, comme tu dis, Geoffroy, l'impact sur les perfs, enfin, tant qu'on fait pas un système ultra critique au niveau perf avec une charge de fou, on s'en fiche, quoi. Donc, et puis comme ça, on rentre dans la compréhension progressive.
Et puis même après, hein. Moi, j'écris mes systèmes sans me soucier trop de la perf, et après je profile, et voilà, avec une vague idée de comment l'archi va s'organiser de manière autour de la performance, mais cloner de la donnée partout, oui, aucun problème. Hein.
Ah, ça me fait penser à un truc, c'est l'intuition dont tu parles, qui effectivement, moi maintenant je la ressens, je pense que Sylvain doit l'avoir aussi, et c'est un truc qui me fait marrer, parce que quand tu l'as dit, ça m'a fait penser à beaucoup de collègues que j'avais fait essayer Rust et qui sont devenus des gros fans de Rust et qui en font pas professionnellement, qui me disent que finalement cette intuition qu'ils ont gagnée en Rust, ben il y a des choses qu'ils voient même dans d'autres langages sur la plus comment on va se gérer la mémoire derrière, avoir plus conscience de comment ça se gère. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je sais pas si vous aussi ça vous fait.
Alors moi, pas tant sur la gestion mémoire, parce que j'ai fait beaucoup de C quand j'étais plus jeune, donc si tu veux, cette notion de ce qui se passe sous le capot, je mets naturellement. Par contre, le système de type de Rust a fait évoluer ma pratique de Scala. C'est intéressant ça, parce que j'ai beaucoup plus utilisé de type class, aussi la façon dont j'utilisais paramètres génériques a évolué dans ma pratique de Scala par rapport à justement suite à l'utilisation de Rust, où j'ai vu des patterns d'usage qui étaient différents et que j'ai trouvé très intéressants. Donc ça se situe à plusieurs niveaux en fait, hein. C'est aussi bien au bas niveau qu'à haut niveau, parce que justement c'est un langage très original là-dessus, parce qu'il a des préoccupations de bas niveau, mais avec un système de type qui lui est extrêmement extrêmement haut niveau, très expressif.
Et donc pour vous, il faut combien de temps à peu près pour être à peu près autonome, on va dire, hein, capable de...
Alors là, il y a une stat qui est sortie, parce qu'il y a des gens qui font des formations en entreprise, des entreprises qui forment leurs développeurs. Il faut un mois pour former un dev Rust, pour être productif. Ce sera pas un dev expert forcément, mais quelqu'un qui peut coder quasiment sans supervision, ça va être un mois.
D'accord. Donc c'est pas tant que ça finalement.
Enfin, c'est ça. En fait, c'est le côté comme le compilateur va aider, comme on sait que quand ça compile, ça marche. effectivement, l'apprentissage des bases du langage peut être plus difficile que dans d'autres langages, mais en un mois, on va être capable d'écrire du code qui va en prod.
Et l'intérêt, c'est que comme le compilateur est vachement strict, tu peux laisser un newbie écrire du code. Si le compilateur est content, tu sais que ça sera peut-être pas forcément optimal d'un point de vue perf et utilisation mémoire, mais par contre, ça va pas cracher ton système en prod.
Ouais, ouais.
Oh, les crashs en prod, ça arrive. Il y en a encore.
Ouais, pas comme quand tu fais du C, par exemple. Ça, si tu lances quelqu'un qui débarque en C à faire du code qui part en prod au bout d'un mois, je pense que là, il y aura quelques petits soucis quand même. Hein,
disons qu'on peut dire qu'il y a toute une catégorie de crash qui se retrouve à éviter.
Et justement, en parlant de prod, c'est en prod chez qui? Alors, on a cité déjà quelques noms tout à l'heure. On a parlé de Cloudflare. C'est chez Clever Cloud, évidemment. Il y a d'autres gros acteurs auxquels vous pensez?
Tu vas trouver tous les GAFAM. Amazon, par exemple, ils ont fait un truc intéressant qui s'appelle Firecracker. Donc, en gros, tout ce qui est AWS, Lambda, Fargate et compagnie, toutes les micro-VM qui font tourner ça sont gérées par Rust. Apple récemment a sorti des offres d'emploi qui ont pas mal circulé parce que ils expliquaient là-dedans qu'après un premier projet pilote sur Rust lié à des services réseau, en gros ils étaient tombés amoureux du langage et ils voulaient développer leur utilisation. Il y a Google qui développe Fuchsia, donc en gros leur prochain remplacement peut-être d'Android avec beaucoup de Rust dedans. Il y a eu une stat aussi intéressante chez Microsoft où ils ont fait des stats sur les bugs qu'ils avaient dans ce système Windows, où ils disaient qu'en gros 70% des bugs étaient liés à des problématiques de gestion de mémoire, et que par contre, pour eux, Rust, c'était l'avenir pour répondre à ces problèmes-là. Et puis on voit Facebook aussi avec Libra, leur crypto-monnaie, là, je sais pas où ça en est derrière ce projet.
Je crois que c'est un petit peu au point mort.
Ouais, c'est un petit peu au point mort qui est fait en Rust. Et on l'a pas mentionné tout à l'heure, mais tout ce qui est crypto-monnaie, enfin, blockchain et compagnie, sont aussi des gens qui utilisent massivement Rust.
Ouais, parce qu'ils gagnent énormément en performance.
Voilà, c'est ça.
J'imagine.
Ouais. Je sais surtout que dans ces boîtes-là, une feuille de sécu niveau mémoire, ça peut se traduire par des centaines de millions de dollars perdus, quoi.
C'est ça. Ouais. Et après, il y a un exemple que je trouve intéressant, c'est une boîte qui s'appelle Sentry, qui est un SaaS de gestion d'erreurs, monitoring, etc. Donc, un de leurs lead développeurs, qui est Armin Ronacher, qui est le gars qui écrit Flask en Python. Il est complètement passé à Rust maintenant. Ils ont testé Rust pour des problèmes de perf sur leur infrastructure et ce gars-là est devenu un contributeur régulier de librairies très intéressantes dans le domaine Rust.
Ok. Parlons écosystème maintenant peut-être.
Écosystème, il y a un site incontournable qui s'appelle qui est Cargo, qui est en gros le NPM ou le Maven, le repository Maven de Rust. Donc toutes les librairies sont là. Et quand on cherche n'importe quel sujet, alors de plus en plus, je sais pas combien il y a de librairies en ce moment, mais
plusieurs dizaines de milliers peut-être. Après, il y en a beaucoup qui sont là, créés à l'arrache et qui ne font rien derrière, mais effectivement, il y a une quantité de code monstrueuse maintenant.
Et en gros, on tape à peu près n'importe quel mot-clé sur n'importe quel techno, et on va trouver quelque chose qui sort, quoi. Alors effectivement, comme dit Geoffroy, c'est pas toujours top qualité, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que directement associé à la librairie, on a aussi le nombre de versions, la fréquence de release des versions, le nombre de téléchargements, le nombre de projets qui dépendent de ce projet-là. Donc on peut très rapidement, comme ça, avoir une espèce d'intuition, en fait, de la pertinence d'une librairie qu'on trouve sur crates.io.
Donc du coup on parle, il y a Cargo bien évidemment qui est l'outil tout en un, enfin quand on commence, enfin, qui est juste complètement incroyable. Hein. Est-ce que vous parlez un peu de tout ce qui est de tooling autour de Cargo? Je pense notamment à Clippy et à plein d'autres trucs qui existent, mais enfin, surtout en fait Clippy, etc.
Il y a eu effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, un focus sur l'outillage qui était important. Clippy c'est effectivement un vieux projet maintenant. L'idée, c'est un linter, en fait, qui va regarder le code et va donner des conseils. Et ce qui est hyper intéressant avec Linky, c'est que il évolue, il ajoute des linters au fur et à mesure de l'évolution du langage. Et souvent, ce qu'il va proposer, c'est « Ah, t'as écrit ça dans ton bout de code, mais alors maintenant, en Rust, on peut faire ça. » Et propose de nouveaux patterns. Et en fait, il y a des bouts de code, des fonctionnalités que j'ai appris en appliquant Clippy sur mon code. C'est quelque chose qui est hyper, hyper utile.
Et puis Clippy aussi, il donne des conseils sur des fois l'optimisation de perf ou la structure du code. Il va dire, ah tiens, si tu faisais ça comme ça, tiens, cette ressource, elle est utilisée là, tu pourrais faire ça les choses différemment. Donc il va plus loin que simplement le linting aussi. Il donne des conseils sur la structure du code, c'est assez surprenant. Hein.
Mais éviter les gros bugs aussi, hein. Ouais. C'est vraiment, vraiment utile.
Après, autour de Cargo, moi, il y a deux outils que j'ai bien aimés. En Rust, moi, j'ai fait chez Elastic, j'ai fait un petit side project. J'ai réécrit le proxy d'Elastic Cloud en Rust pour voir en gros ce qu'on pouvait faire. J'ai l'impression que tout le monde écrit des reverse proxy dans la vie. Hein.
Oui, c'est un vrai problème. Vous devriez tous utiliser Sozo.
Voilà. Mais j'avais regardé Sozo, mais c'était un peu trop compliqué à intégrer. Quoi. Et donc voilà. Puis je voulais essayer. Quoi. Et j'ai fait très attention quand on développe du code comme ça chez Elastic aux licences. Et il y a deux outils que j'ai trouvé intéressants qui s'appellent donc, des extensions de Cargo. Cargo License, c'est un truc, en gros, il va traverser toutes les dépendances transitives et nous faire un tableau de toutes les licences qui sont utilisées dans les librairies. Donc comme ça, on peut vérifier qu'il n'y a pas de la GPL sale qui traîne dans un coin. Et puis aussi, à l'inverse, un outil qui s'appelle Cargo Deny, où on va lui dire, bah, dans mon projet, je ne veux que des licences Apache, BSD, MIT, etc. Et qui va aussi vérifier toutes les CVE qu'il peut y avoir associées aux différentes librairies, et des choses comme ça. Donc, donc ça, c'est juste un exemple d'outillage qui vient autour du cargo de base. Donc, il y a tout un écosystème d'outils complémentaires qui fait qu'on a des chaînes comme ça de build qui peuvent être extrêmement, extrêmement robustes.
C'est effectivement beaucoup d'outils qui sont faits pour passer sur l'ensemble des dépendances comme ça, et ça vient à un moment, on est dans la période où il y a le débat sur les dépendances. On a eu les histoires de leftpad dans NPM, mais il y a ce sujet-là dans plein de langages, et du coup, maintenant on a l'outillage pour regarder par dépendance, tiens, est-ce que celle-là peut panique ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir, ça peut s'arrêter brutalement parce que la crête a un problème. Est-ce que celle-là a une vulnérabilité qui est connue? Oui ou non? En fait, on peut étudier l'ensemble de ces dépendances, on peut les surveiller, on peut faire des graphes. Moi, j'ai des outils qui me permettent d'éditer facilement mon arbre de dépendance, d'autres qui permettent de savoir lesquels sont pas à jour. Et en fait, on a... C'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est-à-dire que l'outillage autour du langage est aussi important que le langage lui-même.
Ce qui fait souvent la force d'ailleurs d'un langage, parce que c'est le langage en lui-même peut être très très bien écrit, mais si t'as pas l'outillage autour pour vraiment industrialiser ton code, etc., ça ne donne rien, quoi.
C'est intéressant parce que justement on parle de dépendance, et alors on va pouvoir attaquer un des grands trucs qu'on fait. C'est effectivement, je parlais de leftpad, le problème de leftpad c'était surtout qu'il était embedé partout. Et alors du coup, maintenant on est en 2020, Rust, ça fait quand même un certain temps qu'il est là, ça l'engage commence à être mature. Il y a des libs aussi qui sont extrêmement matures. C'est lesquels pour vous les libs incontournables, enfin pas incontournables, mais qu'on voit dans 70% à 80% des projets Rust, quoi.
Bon, tu vas trouver CRD et Tokyo. Pour moi, c'est les deux, vraiment les deux incontournables absolus.
Alors Tokyo, ça dépend, mais CRD, oui. Ouais.
Donc CRD, c'est sérialisation, désérialisation. C'est un peu, pour parler Java, c'est un peu le Jackson du monde Rust. Mais un Jackson qui aurait bien vieilli en quelque sorte. C'est assez magique, hein. Donc en gros, on pose une annotation sur ces classes, elles deviennent automatiquement sérialisables dans je sais pas combien de formats ça supporte, c'est incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décorrélé donc l'instrumentation des classes pour les rendre sérialisables du format de sortie. Donc ce qui veut dire qu'on va trouver un support pour des formats, j'ai découvert des formats que je connaissais pas, trucs ésotériques. On a évidemment donc tout ce qui est JSON, YAML, TOML, les .ini, les CSV, tout ce qu'on veut, quoi. Et pour moi, c'est vraiment un incontournable, CRD. Hein,
et puis il y a eu un gros travail dans CRD pour supporter un peu tous les patterns qu'on peut avoir quand on sérialise et sérialise, de changer les noms de champs, d'avoir des valeurs par défaut, etc., d'avoir différents formats, de pouvoir transformer des enum Rust en quelque chose qui marche en JSON, ce genre de choses. Il y a plein de choses là-dedans, donc c'est vraiment c'est très 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 bonne qualité.
Donc quoi, avec CRD par exemple, j'ai écrit un serializer et des serializers pour le protocole Zookeeper, qui est un protocole complètement binaire. Et ce qui fait que juste j'annote mes objets avec les annotations CRD, et puis derrière ça implémente le protocole Zookeeper.
Je confirme qu'il y a quasiment tous les formats, puisque j'ai contribué au CRD DAL, du coup. Quelque part, on va sur de l'ésotérisme. Non mais après il y a effectivement Cerné, bon bien sûr Tokyo, donc si vous pouvez en parler vite fait, et après je pense aussi tout ce qui est plutôt lead d'erreur, lead de monitoring, lead de tracing, lead de log, etc., etc.
Alors là en fait ça dépend, parce que ça c'est encore pour moi une partie de l'écosystème qui est en mouvement. Là actuellement on parlait tout à l'heure d'Async Await, ça a été drivé notamment par le projet Tokyo de 2015. Mais là, depuis l'an dernier, en gros, il y a aussi le projet Async SDD. En fait, Tokyo, c'est un runtime pour exécuter des tâches asynchrones, et le projet Async SDD est un autre projet dans la même veine, et les deux sont en train un peu de se tirer la bourre. Tokyo, faut savoir qu'il prévoit d'arriver en version 1.0 à la fin de l'année. Pour moi, tout ce qui est Async Away, Tokyo, Async SDD, c'est pas encore fait, c'est pas encore fixé. Ils sont encore en train d'argumenter sur des bouts d'API. Donc, incontournable, oui, effectivement, si on veut faire du web et avoir du web performant, utiliser les frameworks, les Actix, les machins, etc., on va devoir utiliser ce genre d'outils. Par contre, est-ce que c'est les trucs les plus stables du monde pour le moment? Ça dépend.
Mais je suis d'accord là-dessus. Il y a encore, comme tu dis, ils se tirent la bourre entre Async STD et Tokyo. Mais par contre, la plupart des projets réseau matures qu'on va trouver, ils sont très souvent basés sur Tokyo, j'ai l'impression.
Bah, moi, par exemple, j'ai voulu, c'était pour la lib Pulsar, pour Apache Pulsar, pour le client, j'ai voulu gérer le support à la fois de Tokyo et Async STD. Et ça devrait pas être le taf d'une lib de protocole de gérer toute la compatibilité entre ces deux projets-là. Il devrait avoir une interface commune pour ça, et on l'a pas encore. Et c'est là qu'on voit que la maturité, elle est pas là.
Ouais, pareil, parce que ce que je voulais dire aussi, c'est que typiquement, Tokyo, il est dans beaucoup de projets network, peut-être aussi parce que c'était celui qui était le premier, qui a été là depuis longtemps, hein,
c'est
une question assez jeune, finalement.
C'est exactement ça. Et sachant qu'après, socialement, il y a pas mal de problèmes, parce que bon, le Async STD, c'est notamment parce que quelqu'un de chez Tokyo est parti pas content et a fait son truc. Il y a pas que du technique, il y a beaucoup d'humains entre ces deux projets, donc là-dessus, je pense qu'il faut attendre que ça se tasse un petit peu, quoi.
Après,
sur la gestion d'erreurs que tu mentionnais, c'est intéressant parce que ça aussi, c'est énormément en mouvement. Pendant longtemps, il y avait différents outils. On a eu Failure, on a eu, je sais pas, là, en ce moment, on a Anywho, on a Snafu. Enfin, il y a la manière de gérer les erreurs dans Rust. Autant on avait déjà de l'outillage sympa avec les results, dès le début. Autant quand les gens ont voulu automatiser un petit peu, faire des API sympas rapidement, facilement. Bah là, il y a plein d'approches différentes qui sont pas toutes compatibles. Et il y a un working group du langage, en fait, qui va essayer de standardiser un peu tout ça. Donc là, je pense aussi qu'il faut attendre un petit peu. Le working group a été créé là très très récemment, donc d'ici peut-être un an, on saura un petit peu mieux. Mais on peut déjà faire sa gestion d'erreurs très proprement en Rust. Hein.
Moi, il y a aussi une librairie que j'aime beaucoup qui s'appelle Structopt, qui est pour faire des outils command line, où c'est un confort absolu parce que en gros, on décrit les arguments de la ligne de commande sous forme d'une structure, d'un type, et avec quelques annotations en plus là-dessus, et derrière ça génère tout le code pour gérer la ligne de commande. Donc en gros, on se retrouve avec pour faire des lignes de commande qui peuvent être extrêmement compliquées avec des paramètres typés, optionnels, des sous-commandes, etc. Simplement d'écrire ça sous forme d'une arborescence de structure avec des champs, et quand là aussi quand la librairie Structopt est contente, donc elle s'occupe de tout le parsing et aussi de faire des suggestions si on a mal tapé les paramètres, etc. Quand elle nous donne un résultat, eh ben on sait que tout est bien comme il faut, carré, et on n'a plus qu'à utiliser les données. Donc pour faire des outils command line, c'est top, quoi.
Je confirme, c'est hyper sympa à utiliser. J'emploie ça dans plusieurs projets, hein. Sur la ligne de commande, ça avait commencé notamment avec Clap. Et il y a eu beaucoup de travail sur rendre la ligne de commande très utilisable. C'est tout bête, hein, mais dans plein d'autres langages, bon bah voilà tes arguments, tu fais des printf, tes machins, et puis c'est tout. Et en fait, non, il y avait besoin vraiment d'outiller proprement les choses, quoi.
Alors dans le monde Java, il y a un équivalent que j'aime bien aussi qui s'appelle PicoCli. Donc s'il y a des gens qui utilisent PicoCli, Structopt est un peu similaire à PicoCli dans le monde Rust.
Ok. Alors, je pense qu'on peut conclure sur justement la communauté, le futur du langage. Notamment, vous disiez tout à l'heure que À l'heure actuelle, il n'y a plus forcément une seule communauté, mais plusieurs communautés au sein de l'écosystème qui s'orientent en fonction de leurs besoins. Est-ce que je fais de l'embarqué? Est-ce que je fais du jeu vidéo, etc. Alors, vous voyez comment l'avenir du langage? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités majeures que vous attendez?
Alors, pour moi, alors, c'est pas forcément un avis qui est à prendre, mais on a toujours eu tout ce qu'il fallait en Rust pour faire tout ce qu'on veut. C'est ce qui vient facilite la vie, mais en gros, dès 2015, on avait un outil qui, notamment pour faire de l'infra, était parfaitement utilisable. Par contre, avec tout ce qui est async await, une fois que ça sera bien stabilisé, le développement de service sera très très intéressant. Donc, je pense qu'on va avoir arrivé de plus en plus d'outils d'infra en Rust, même si c'est déjà beaucoup le cas, il va y avoir un focus là-dessus.
Alors moi, je crois qu'il va y avoir aussi une autre orientation importante de Rust, qui est tout ce qui est les API. C'est-à-dire que quand on voit des frameworks comme ActiveX Web, c'est alors là aussi, on trouve une combinaison super intéressante entre la performance de ce langage de bas niveau et l'expressivité des types. En gros, faire une API web avec quelque chose qui va auto-magiquement, comme je dirais, nous interpréter les paramètres de requête, la structure d'un body en JSON, etc., et nous les mapper directement sur une structure de données, c'est quasiment automatique. Donc c'est super rapide avec ActiveX de faire des applis web en deux temps, trois mouvements. Et chose intéressante, on voit aussi apparaître des frameworks front-end écrits en WebAssembly, qui reprennent les concepts de React pour certains. Enfin, je pense à un truc qui s'appelle U. Et on voit apparaître, alors le terme de code isomorphique qui venait du monde JavaScript, où on disait on prend le même code qu'on fait tourner sur le client et sur le serveur, et ce code isomorphique maintenant on va le trouver aussi en Rust, c'est-à-dire que par exemple les modèles de données applicatifs, on va pouvoir utiliser les mêmes librairies côté client et côté serveur et écrire complètement son IHM web en Rust, en WebAssembly, en allant attaquer le DOM derrière. Donc ça, pour moi, c'est un développement intéressant qui est encore émergent, hein, mais qu'on voit poindre.
Il y a un autre point. Là, c'est un sujet sur lequel j'avais beaucoup poussé très tôt, et bon, c'était encore un petit peu tôt, on va dire. Mais c'est d'avoir du Rust embarqué dans d'autres langages, parce que Rust, techniquement, en fait, rien n'empêche d'écrire une lib Rust et de la faire passer pour une lib C derrière, et de la compiler avec le reste, comme on fait pour n'importe quel autre lib C. Et du coup, je pense qu'on va avoir plus de Rust qui arrive à droite à gauche, notamment parce qu'il y a des libs de bonne qualité qui arrivent pour des codecs, pour des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui va s'intégrer tout doucement, discrètement, dans plein de langages.
D'accord. Et alors, j'ai une question qui n'a rien de technique, qui est purement sur de l'humain. La communauté Rust, elle a l'air assez dingue. Elle a l'air extrêmement diverse, extrêmement bienveillante. Vous avez une idée d'où ça vient ou c'est...
Alors, est-ce que ça viendrait pas de la culture de l'entreprise Mozilla? Alors, je parle pas forcément au management parce que on a vu dernièrement qu'il y avait des problèmes de management, mais plutôt la communauté des développeurs Mozilla, qui sont des gens qui sont très ancrés dans l'open source, le partage, la communauté, etc. Il y a probablement un aspect culturel qui vient de là, je pense.
Ça a été en fait un travail conscient de la part, on va dire, des leaders du langage au début, de travailler la communauté, de travailler l'accès, la bienveillance, quitte en fait à se couper de d'autres développeurs qui n'étaient pas vraiment dans cette ambiance-là. Mmh. Et ça a donné, enfin je me souviens quand on organisait des conférences comme RustFest, le public qu'on a dans ces conférences-là par rapport à d'autres conférences de dev est complètement différent. Et c'est là qu'on voit qu'on a réussi quelque chose, on va dire.
Ouais, il y a une certaine satisfaction à voir que t'as un public qui est beaucoup plus divers, qui a pas peur de venir parce que il va pas se sentir rejeté ou va pas avoir peur, quoi, en fait. Ouais.
Après, là où il faut se méfier, c'est que la communauté grandit et on a un peu plus d'un peu tout le monde et on sent que ça peut coincer un petit peu maintenant et que le côté diversité, c'est difficile à garder. Donc J'ai vu par exemple des transformations, notamment sur le subreddit Rust, où avant c'était quasiment le subreddit, le seul subreddit où on pouvait avoir envie d'aller parce que là tous les gens sont sympas, alors que le reste du site généralement beaucoup de gens insultants. Et là, ça a changé. Et quelque part, c'est normal parce que quand une communauté grossit, on n'a pas forcément les mêmes personnes qui arrivent.
C'est ça. Ouais. Ok. François, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter?
Non, je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à toutes les questions qu'on a posées. Et puis, on est déjà à 1h10, ça me semble être pas mal pour moi.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, il va me rester à vous remercier tous les trois. François, pour avoir accepté d'être mon co-intervieweur, et puis Sylvain et Geoffroy pour avoir pris ce temps pour nous répondre. Merci beaucoup. Je vous laisse m'envoyer toutes les références que vous jugez utiles de partager avec nos auditeurs. Et on vous dit à bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.